1, 2, 1, 2.
Parlons vrai, parlons assurance avec BNP Paribas.
Financer et assurer mon appart au même endroit, j'y gagne quoi?
En fait, chez BNP Paribas, on vous offre 2 mois d'assurance habitation lors de la souscription de votre crédit immobilier. Et ensuite, tous vos contrats sont détenus dans votre agence BNP Paribas. C'est quand même plus simple pour vous.
BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. Assurance habitation BNP Paribas assurée par Avansure. Offre valable jusqu'au 30 juin 2012, conditions en agence et sur bnpparibas.net.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Ce soir, Arte diffuse un téléfilm de Joël Farge intitulé « Alexandra David Nel, j'irai au pays des neiges » consacré à la célèbre exploratrice du Tibet interprétée par l'excellent Dominique Blanc. Et Franck Ferrand s'est dit que c'était le moment de consacrer une émission au destin étonnant de cette grande figure du XXe siècle. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Alors c'est la panique en régie dès le début de l'émission.
Qu'est-ce
parce qu'on me dit que ce n'est pas ce soir, mais que c'est demain soir que
demain soir
Arte
sur
diffuse
Arte.
Voilà,
d'accord,
ce
bon.
Téléfilm. Une grande figure, certes, comme vous dites, Julia, mais controversée. Un destin étonnant, mais énigmatique. La très singulière Alexandra David Nel, superbement interprétée par Dominique Blanc dans ce téléfilm, n'en finit pas de susciter la curiosité. D'elle, on aura tout dit. Qu'elle était chamane, franc-maçon, lesbienne, espionne. On oublie parfois qu'elle était chanteuse d'opéra. Et même, on a dit qu'elle n'avait jamais mis les pieds à Lhasa lors de son célèbre périple de 1924. Je vous propose, en compagnie de mes invités, d'essayer d'y voir un peu plus clair à son sujet et de trier les vérités et les idées fausses.
Parfait. Et si vous-même, chers auditeurs, avez connu Alexandra David Nel ou tout simplement si vous avez des questions à poser à son sujet, vous savez que vous pouvez le faire très facilement en vous rendant sur le site internet d'Europe 1.
Alors, prête pour la grande aventure, Julia?
Oui.
Allons-y, nous partons pour le Tibet.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je vais me mettre en route dans une quinzaine, écrite Alexandra à son mari Philippe Nel le 22 mai 1922. Elle se trouve alors au sud de la Chine, à portée du Tibet et de Lhasa, son but. J'ai marché pendant 44 jours avec un seul de mes domestiques, franchi une douzaine de cols avec de la neige par-dessus les genoux, couché par le gel dans des anfractuosités de rochers, comme une femme préhistorique, écrit-elle, manquant de nourriture, à peu près nu-pied. Les semelles minces de mes mocassins ayant été usées par les pierres de la route. Nous voulions nous tirer des steppes sans fin, atteindre une province chinoise plus au sud et ensuite remonter au nord par une route parallèle à celle que nous avions suivie l'année dernière. Je voulais me remettre en route immédiatement, mais le commandant musulman m'a presque supplié de n'en rien faire, me représentant l'état hivernal des régions que nous avions à traverser. Mes bêtes mourraient, me dit-il, faute d'herbe à brouter, nous serions pris dans des tourmentes de neige. Cette femme de 54 ans voyage habillée en tibétaine, ses bagages sur le dos, accompagnée seulement d'un jeune moine, Afur Yongden, qu'elle a rebaptisé Albert. Au mois de juillet, ils quittent leur hivernage et ils arrivent à Gangzhou fin août. « Le temps est beau, extrêmement beau », écrit-elle dans une nouvelle lettre à son mari. « Le soleil reste chaud comme il l'est toujours en Chine, même en hiver, une demeure bien exposée, avec des fenêtres vitrées laissant les rayons du soleil se répandre pleinement dans les chambres, pourrait être habitée sans que l'on y fasse de feu, sauf le soir et le matin de très bonne heure, et l'on n'y souffrirait pas du froid. » Les couchers de soleil sont merveilleux, écrit Alexandra David Nel. Les montagnes environnantes prennent des teintes exquises, comprenant toute une gamme de mauve, de rose, de bleuâtre. C'est un vrai régal pour les yeux. Pas très loin, au sud, la neige demeure pendant l'été à moins de 4000 mètres. Ce doit être cependant, à mon avis, une question d'exposition et je crois bien que l'autre versant de ces mêmes pics doit être libre de neige. Au Kodo Nord, pas très loin d'ici, la neige fond pendant l'été à 4500 mètres d'altitude et dans l'Himalaya, on peut monter jusqu'à 5000 et même 6000 mètres pendant juillet et août sans trouver de neige. C'est une manière qu'elle a de se rassurer, évidemment. Alexandra va s'attarder jusqu'au mois d'avril 1923. Elle annonce à son mari à ce moment-là qu'elle souhaite adopter le jeune moine qui l'accompagne partout, et elle lui demande de lui envoyer de l'argent pour le payer. Il a été honnête avec scrupule, écrit-elle. Il a été dévoué plus que beaucoup de fils ne l'auraient été pour une mère vieille et parfois bien ronchonneuse. Il n'a pas épargné un sou. Il a été très imprévoyant pour lui-même, ne me demandant aucune garantie en cas de renvoi ou pour celui où je viendrai à mourir. Alexandra implore littéralement son mari de lui envoyer 18 420 francs pour payer un salaire à Yomden. « Une des choses les plus agréables que tu pourrais faire pour moi, toi qui m'as été dévouée tant de fois, écrit-elle, ce serait de me rassurer au sujet de mon fils adoptif. » Néanmoins, Philippe rechigne, la lettre tarde à venir et l'argent plus encore, ce qui fait que Alexandra décide de partir sans plus attendre. Le 27 mai, c'est un prêtre chinois qui les accueille à Guangyang, une petite localité qui se trouve au nord-est du Sichuan. Elle ne peut s'entretenir avec ce prêtre qu'en latin, figurez-vous. Elle ne parle pas du tout le chinois, même si elle connaît bien des langues orientales, on y viendra dans un instant. Alexandra parvient à lui vendre son cheval pour la somme de 120 dollars et on la voit repartir ainsi. Elle est à Chengdu, la capitale du Sichuan, en juillet, sur les pistes de Likiang en septembre. Elle approche à ce moment-là du Tibet interdit aux étrangers et a fortiori aux femmes étrangères. Le 23 octobre, elle raconte son arrivée à Zhejiang. « Mon voyage de Likiang à ici s'est bien passé, à l'exception d'un ennui causé par les porteurs de chaises qui m'ont joué le mauvais tour de me laisser à Weishi, croyant me forcer à leur offrir une paix supérieure à celle déjà forte que le missionnaire protestant leur avait accordée en les engageant pour moi. Je ne leur ai pas cédé, dit-elle. » Et avec Yongden, elle est maintenant prête. Ça va être sa cinquième tentative de rejoindre Lhasa. Elle adopte un profil bas, aucun bagage encombrant. Elle ne porte caché sur elle qu'un petit sac d'or, un revolver, une boussole, des cartes recopiées comme ça à main levée et des notes pour l'itinéraire. Elle se fera passer pour une mendiante et Yongden pour un diseur de bonne aventure. Ce sera leur manière de survivre jusqu'au but. C'est alors qu'Alexandra décide de se débarrasser de ses porteurs. Alors, elle monte tout un stratagème pour les renvoyer. Il ne faut plus qu'ils ne soient que seuls s'ils veulent avoir une chance d'approcher enfin de Lhasa. Un vent terrible souffle à ce moment-là et ils marchent extrêmement lentement. On peut dire que chaque pas est compté vers le but qui est le sien. Elle pousse Yongden à monter plus haut dans la montagne que l'itinéraire ne le leur indique. Ils ont soif, ils vont tomber sur un pèlerin, un lama, qui leur offre du thé. Seulement, ils n'ont pas du tout, on peut dire que le moindre rencontre qu'ils font est très tendu, car il ne faut pas du tout se découvrir, il ne faut pas du tout qu'on puisse comprendre qui ils sont. Leur progression continue, émaillée de nombreuses rencontres avec des pèlerins, des marchands, des nomades, des brigands même. Et finalement, Alexandra et Yongden arriveront à Lhasa, où les célébrations du nouvel an tibétain ne font que commencer. C'est le nouvel an de 1924, on est déjà à la fin du mois de février. Et elle a atteint son but.
Sur Europe 1 du générique du téléfilm diffusé demain soir sur Arte, Alexandra David-Nel, gérée au Pays des Neiges. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et avec vos invités aujourd'hui sur Europe 1, Franck, Jean Chalon, écrivain, auteur du livre Le lumineux destin d'Alexandra David-Nel chez Perrin, réédité en pocket. Également avec nous, Éric Le Nabour, qui est historien, écrivain et auteur d'Alexandra David-Nel chez Lattès Ushuaïa.
Nos deux invités sont bien connus, j'allais dire on ne les présente pas, mais si, présentons-les. Effectivement, Jean Chalon, vous avez, j'allais dire, vécu avec Alexandra David-Nel. Elle a été une de ces grandes égéries qui ont accompagné votre carrière d'historien et d'écrivain.
Vous n'étiez pas né quand j'ai commencé à lire, c'était pendant l'hiver 1945, donc j'avais 10 ans en 1945, et ma sœur aînée bien-aimée, grande admiratrice d'Alexandra David-Nel, m'avait donné le voyage d'une Parisienne à Lhassa. En 45, il faisait encore très froid, j'étais malade, j'avais une bronchite, donc j'ai lu le voyage d'une Parisienne à Lhassa, et il y avait un grand édredon rouge, et le grand édredon rouge, c'était les Himalayas.
Eh oui.
Et ensuite, le temps passant, je suis entré au Figaro, enfin j'ai fait ma carrière, et puis pendant l'été 69, j'ai décidé d'aller interviewer Alexandra David-Nel et on m'a dit que bien sûr qu'elle me recevrait parce qu'elle était lectrice du Figaro, elle aimait mes articles, enfin et tout ça. Mais il a fait très chaud, j'ai dit je viendrai en octobre et elle est morte en septembre.
Elle est morte juste avant.
Donc je n'ai pas rencontré Alexandra David-Nel, mais qui m'accompagnait toute ma vie.
Elle avait 101 ans à 101 ce moment-là. Et alors juste avant vous, une équipe de télévision était allée la voir, c'était au mois de mai. Et voilà quelques extraits qui sont d'ailleurs diffusés dans le téléfilm que qu'Arte propose demain soir. Voilà un extrait de cet entretien avec la véritable Alexandra David-Nel.
J'aurais pu certainement peut-être choisir autre chose. Mais voyez-vous, ce que vous me dites là, vous auriez pu choisir, ça se rapporte à une question philosophique. Est-ce que j'aurais pu choisir autre chose? Ou est-ce que j'étais conditionnée de façon à ce que je choisisse cela? Mais ça, c'est une question de philosophie. Ça n'a rien à faire avec les voyages. Il ne faut jamais dire si j'avais été là, à cette époque-là, et dans cet âge-là, j'aurais fait ça. Mais non, mon bel ami, si vous aviez été de cette façon-là, dans tel entourage, à tel âge, etc., etc., vous auriez été celui-là. Vous n'auriez pas été celui que vous êtes maintenant et vous n'auriez pas pensé la même chose. Vous auriez fait exactement ce que l'autre a fait. Parce que vous auriez été lui à ce moment-là.
Extraordinaire d'avoir la voix d'Alexandra David-Nel qui s'en va dans une réflexion philosophique sur la destinée en quelque sorte et sur ce que la vie vous offre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle a pris, elle, au moins autant qu'on ne lui a offert. Alors, en quoi est-ce que cette Alexandra est le fruit de son milieu, de son éducation? Il faut que nous la situions un peu, Éric Le Nabour.
Je pense qu'elle s'inscrit surtout en réaction contre un milieu plus qu'en accord avec ce milieu-là.
Exactement.
Puisqu'elle vient d'une famille assez bourgeoise et que d'emblée, elle a rejeté un peu cette famille. Aussi bien au niveau politique qu'au niveau religieux d'ailleurs, puisqu'elle s'est toujours montrée assez hostile à la bourgeoisie. Elle a fréquenté aussi un ami de la famille qui s'appelait Élisée Reclus,
qui était
un grand géographe, qui était anarchiste, qui n'a sans doute pas été sans influence sur sa façon d'évoluer. Et d'ailleurs, elle a toujours manifesté cette indépendance pendant toute sa vie et aussi cette réaction par rapport à tout ce qui était formalisme dogmatique, ce qui l'a d'ailleurs conduit à adopter plus facilement le bouddhisme que sa religion d'origine.
Alors comment est-elle venue au bouddhisme et du bouddhisme à ses voyages, à ses explorations incroyables? Évidemment, tout ça ne s'est pas fait en un jour. Nous revenons sur le parcours extraordinaire d'Alexandra David-Nel dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à une grande exploratrice, Alexandra David-Nel, qui au début du XXe siècle a été la première femme à explorer les points les plus reculés, les plus interdits du Tibet, Franck.
Vous nous disiez, Éric Le Nabour, il y a un instant, qu'elle s'était inscrite plutôt en réaction au milieu dont elle est originaire. Le grand géographe Élisée Reclus, par exemple, cette figure anarchiste qui a compté dans sa formation intellectuelle, n'en était pas moins un ami de la famille. Elle a été amenée aussi par ce père républicain à s'intéresser très tôt aux idées et à des idées un peu non conformistes.
Ce qui prouve que sa famille était probablement un petit peu moins limitée intellectuellement qu'elle l'a supposé à une époque. Mais c'est vrai que le rôle d'Élisée Reclus a probablement été important, mais aussi en tant que géographe, puisqu'il avait affaire à quelqu'un qui était déjà passionné enfant par les voyages, qui a fait des fugues plus tard d'ailleurs, qui est parti. Alors là, c'est un témoignage d'indépendance à l'époque, parce que je crois qu'elle avait 16 ans ou 17 ans quand elle a fait ses premiers voyages. Oui, il y a le voyage à 5 ans.
Il y a 5 ans dans le bois de Vincennes.
Mais mais plus tard, bon, c'est là elle est partie quand même beaucoup plus longtemps, et puis elle a fini, je crois, par crier au secours parce qu'elle avait plus d'argent. Enfin bon, donc le milieu était pas si fermé que ça. Et mais c'est vrai qu'il y a quand même une réaction par rapport à son milieu d'origine qui est terrible. Même sur le plan religieux, on voit bien qu'à un moment donné, elle ne s'inscrit pas du tout dans une ligne chrétienne. Le bouddhisme lui offre une certaine liberté que le christianisme du début du XXe siècle ne lui offre pas.
Vous avez prononcé le mot, c'est le mot liberté qui est peut-être au cœur de toute sa psychologie et de toutes les initiatives incroyables dont, dès sa jeunesse, elle fait preuve, Jean Chalon.
Oh ben ça a été. Moi, je pense qu'elle a mis en pratique la devise de Nathalie Barnet qui était « mieux vaut passer sa vie à se créer qu'à procréer ». Ça a été vraiment... Donc, elle a passé, Alexandra a passé sa vie à se créer. Monsieur David disait « ma fille a la peau blanche, mais elle a l'âme jaune ». Donc, il y avait déjà une espèce... Moi, je prendrais un grand mot, la prédestination. Il y avait une espèce de prédestination d'Alexandra à devenir ce qu'elle est devenue, mais en même temps, à force d'efforts, d'études, elle a quand même passé des heures d'études à Guimet, au musée Guimet, pour apprendre le sanskrit, elle est allée à Londres, enfin...
Pourquoi cet intérêt précisément pour l'Orient, pour des raisons philosophiques et religieuses?
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le club méditerranéen, il n'y avait pas... Donc les grands voyageurs, c'était Pierre Loti, et l'Orient exerçait une fascination, mais enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas oublier, puisqu'on parlait du bouddhisme, elle a toujours dit le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie. Et donc, c'est une philosophie qui lui convenait parfaitement.
Elle se marie néanmoins. On aurait pu imaginer qu'elle ne se mette pas cette contrainte, qu'elle ne se mette pas ce fil au pied. Si, elle se marie, mais elle a la chance de tomber sur un mari très ouvert d'esprit.
Un mari exemplaire. Sans Philippe Nel, Alexandra n'existerait pas.
C'est ça.
Parce qu'il a financé tous les voyages. J'ai connu la nièce de Philippe Nel qui m'avait dit « mon oncle n'a jamais parlé mal de sa femme, il m'a simplement dit « Alexandra m'a coûté très cher ». Et ça, effectivement, Alexandra lui a coûté très cher.
Alors elle lui écrit souvent pour lui demander de l'argent, mais aussi pour lui donner des nouvelles, évidemment, des différents voyages qu'elle effectue. Nous allons venir sur l'ordre de ces voyages et sur leur vraie motivation dans un instant. Ce que je voudrais qu'on entende, c'est le ton d'Alexandra lorsqu'elle parle à Philippe, lorsqu'elle lui écrit. J'ai cité quelques-unes de ses lettres dans la première partie de cette émission. J'aimerais qu'on entende dans la bouche de Dominique Blanc une des lettres à son mari. Elle se trouve à ce moment-là en Inde et elle lui dit qu'elle a quelque chose peut-être d'assez irresponsable. En tout cas, elle se compare elle-même, vous allez voir, à Don Quichotte.
Mon cher Mouchy, combien je t'aime parce que tu as été une intelligente circonstance favorisant affectueusement mon désir. Ce matin, je suis partie avec mes gens. J'ai songé à Don Quichotte, partant chercher aventure. Je n'avais pas la lance au poing, mais une simple baguette empruntée à un buisson. Espérons que les moulins à vent, eux aussi, seront en proportion modeste.
Je ne peux pas m'empêcher, lorsque je lis Alexandra David-Nel et lorsque je l'entends, on a entendu tout à l'heure sa voix véritable hein, dans cette interview de 1969, à songer à cette langue extrêmement tenue qui, longtemps, était celle aussi, bien sûr, de Marguerite Yourcenar. La même distinction, hein, c'est assez
c'est
étonnant.
C'est vrai, moi qui ai connu Yourcenar, c'est exactement, d'ailleurs, Nathalie Barnet, Yourcenar, toutes ces femmes avaient, d'ailleurs, elles avaient pris des leçons de diction, je veux dire, on en parlait, elles parlaient un français absolument impeccable, et tout ça descendait de la diction de Sarah Bernhardt, en fin de compte.
Oui, vous pensez qu'elles étaient les élèves de Sarah ?
Ah ben, Nathalie Barnet a pris des leçons de Sarah Bernhardt. Il y avait une façon de parler qu'on retrouvait encore dans les modulés de Louise de Villemorin. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces de
d'inflexion, comme ça.
D'inflexion,
oui.
Voilà, d'inflexion qui était purement de la comédie française.
Est-ce que ça vient pas non plus d'une tradition bien française aussi? Quand on voit le XVIIIe siècle, on a des lettres de femmes de chambre qui sont quasiment aussi bien écrites que des lettres d'aristocrates. Donc là, je pense que Alexandra David-Nel et Nathalie Barnet reprennent en fait une tradition qui est une tradition bien française, bien latine, du respect de la langue.
Une vraie distinction voilà. dans l'expression, en fait, qui joue un rôle très important, parce que si l'on n'avait pas tous ces courriers et toutes ces belles relations de voyage d'Alexandra David-Nel, il est très possible que son singulier destin était été oubliée. C'est par la langue qu'il survit.
On a peine à imaginer Alexandra David-Nel envoyant des SMS à Philippe Nel. Ça aurait été dramatique parce qu'on n'aurait pas sa correspondance. Et puis, en dehors même de la correspondance, quand vous lisez ces récits de voyage, ou c'est même des livres qui sont des livres purement doctrinaux, enfin métaphysiques, c'est très très bien écrit.
Alors qu'elle se trouve à Pondichéry, elle n'hésite pas à donner des conférences qui sont ouvertement féministes. Nous entendons un autre extrait de la dramatique qui sera diffusée demain soir sur Arte.
Vos convictions féministes, madame, sont-elles compatibles avec l'enseignement de votre Bouddha ?
Monsieur le gouverneur, ce n'est pas mon Bouddha. Il appartient à qui veut, homme ou femme d'ailleurs. Quant à mes convictions féministes, l'homme tient beaucoup trop de place dans la vie de la majorité des femmes. Je ne parle pas de la place de l'entreteneur et de nourrisseur de la famille et de l'épouse. Je parle de la place de l'homme dans la mentalité féminine. Quant au dharma, la doctrine du Bouddha, elle est essentiellement socialiste et féministe. Que voulez-vous posséder ? Que souhaitez-vous imposer à autrui quand on sait que le monde n'est qu'une fresque bâtie sur du vide ?
Bon, si nous passions à table.
Monsieur le gouverneur, les chiens aboient, les chats miaulent. Moi, je philosophe. C'est ma nature.
Moi, je philosophe, c'est ma nature, dit Alexandra David-Nel. Elle aurait pu dire, moi, je voyage, c'est mon destin. Nous venons à ces voyages dans quelques minutes.
Jusqu'à 14h sur Europe 1.
Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Sur Europe 1, extrait de L'Acmé de Léo Delibes, Franck.
Merveilleux air de Delibes. Il faut dire quand même que Alexandra David-Nel a été chanteuse lyrique. Elle était amie de Massenet. Elle a chanté Carmen, Jean Chalon.
Elle a chanté Carmen à l'Opéra d'Hanoï avec un énorme succès. Elle touchait 200 francs par soirée et ça a été un très très grand succès. Elle aurait pu faire une carrière de chanteuse, mais à l'époque, les chanteuses devaient coucher avec le directeur et l'austère Alexandra s'est refusée à se plier à cette coutume.
On a l'impression qu'il y a, dans cette très longue existence, plusieurs vies en vérité. À partir de quel moment, Éric Le Nabour, peut-on dire qu'Alexandra se concentre sur les questions philosophiques et religieuses et s'intéresse avant tout aux sagesses tibétaines ?
Je vais employer une expression qui, je crois, va faire plaisir à Jean Chalon. C'est le fil d'Ariane, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui court tout au long de sa vie. Est-ce qu'on peut mettre une date précise sur un moment donné, il y aurait eu un enthousiasme particulier d'Alexandra David-Nel pour les doctrines orientales, pour l'Orient. Moi, je crois que c'est... Là, on en revient effectivement à ce qu'elle disait dans cette interview, c'est la prédestination. Maintenant, il y a... C'est quelque chose qui reste latent pendant des années, qui court en même temps, je dirais, dans son être intérieur. Et puis, effectivement, il y a plusieurs vies. Il y a la chanteuse lyrique, il y a la voyageuse, mais en arrière-plan, il y a toujours, en fait, cette quête d'elle-même.
Il y a l'intellectuel, quand même, il faut le dire.
Écoutez, si aujourd'hui, on doit retenir quelque chose aussi d'Alexandra David-Nel, je dirais, en dehors de ses voyages, c'est quand même l'œuvre qu'elle a laissée derrière elle. Et l'œuvre qu'elle a laissée derrière elle, c'est quand même essentiellement consacrée à une quête intérieure.
Et il y a des traductions de textes sacrés. Alors, j'ai entre les mains la biographie que Gilles Van Grasdorff a fait paraître chez Pygmalion l'année dernière, qui s'appelle tout simplement Alexandra David-Nel. C'est une biographie d'autant plus intéressante qu'elle est assez critique et que l'auteur se fait l'écho de beaucoup de doutes qui ont été émis à propos d'Alexandra, et notamment sur ses capacités de linguiste et de traductrice, par exemple.
Alors Gilles, que je connais un petit peu, est un spécialiste du déboulonnage, puisqu'il a déjà écrit une biographie. Oui, non, mais c'est utile aussi parfois, puisqu'il a écrit une biographie du Dalai Lama, on va dire non autorisée.
Oui, tout à fait, oui.
Pour ce qui est par exemple des traductions de textes, Alexandra David-Nel précise très bien à chaque fois qu'elle a toujours fait ses traductions sous le contrôle de lamas tibétains qui ont corrigé ces textes, c'est-à-dire qu'ils lui ont dit à un moment donné, il y a un contresens. Où... Et puis, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'il ne suffit pas de connaître une langue sur le plan du vocabulaire et de la grammaire pour en saisir toutes les nuances et pour faire passer exactement le sens de la langue d'origine. Donc un pur linguiste n'arriverait pas en fait à traduire un texte correctement. Là où Alexandra David-Nel a été, je crois, utile, c'est qu'elle comprenait les choses de l'intérieur, ce qui lui permettait, même à l'aide de lama tibétain qui lui donnait des conseils, de traduire au mieux des possibilités le sens exact des textes d'origine. Et ça, je crois qu'on peut lui rendre hommage à ce point de vue-là.
Elle allait constamment au devant des sages de l'Orient. Elle voulait rencontrer les grandes figures de la pensée bouddhiste. Et elle les a rencontrées, du reste. Elle a dialogué avec eux. Elle était en quête. Je crois que c'est vraiment ça. Elle était à la recherche d'une vérité.
Elle a rencontré quand même le 13e Dalai Lama.
Et, oui.
Et puis alors moi, ce qui me fascine dans ce destin, c'est peut-être moins le voyage à Lhasa que d'avoir vécu pendant deux ans dans une grotte avec celui qu'on appelait le Gomchen de Lhatshen, qui était le sage de Lhatshen. Et elle a vécu 2 ans avec lui. Et c'est comme ça qu'elle a eu accès à tous ces fameux secrets tibétains et surtout ce tummo. Le tummo qui est la chaleur intérieure que nous avons, nous l'extériorisons et ceux qui sont très avancés peuvent sécher par une nuit d'hiver 12 draps mouillés et Alexandra Modeste dit « Je n'ai réussi qu'à en sécher 6 ». C'est déjà extraordinaire, je veux dire.
Mais elle était elle-même initiée, elle était elle-même un maître à penser, ce qu'il faut bien voir. L'attitude de Yongden avec elle est celle d'un élève d'un disciple par rapport à un maître, hein, c'est bien ça?
Tout à fait. Elle a fréquenté les sages et elle-même est devenue un sage. Pour en revenir à Yongden, quand j'avais fait les travaux de recherche...
Qui est donc le jeune moine qui l'accompagne.
Oui, le jeune moine qui l'accompagne. Il y avait encore des gens indignes qui avaient connu Yongden et qui est mort vierge. Car il lui avait dit « Maman ne veut pas que je connaisse les femmes ».
Mais elle était sa mère adoptive.
Elle était sa mère adoptive et le pauvre Yongden est mort vierge.
Elle avait une sorte de ténacité, de volonté, d'obstination extraordinaire, Éric Le Nabour, quand elle avait décidé de suivre un chemin, que ce soit un chemin extérieur ou intérieur, si je puis dire, que ce soit un chemin de voyage ou un chemin d'initiation, elle s'y tenait, elle avançait, elle ne décrochait jamais.
Alors, il y a une ténacité chez elle qui est terrible, je dirais même c'est de l'entêtement. Il y a un paradoxe quand même assez curieux chez Alexandra David-Nel, c'est que, faut quand même bien le dire, elle a un ego assez puissant. Bon, et paradoxalement, elle cherche quoi? Elle cherche une vérité intérieure qui est au-delà de l'ego. Donc, il y a quelque chose qui est assez bizarre, c'est-à-dire que elle n'est pas toujours très sympathique avec Yongden, loin de là, comme on vient de le dire. Elle a un caractère terrible. Avec son mari, quand même, elle est très contente de le trouver pour qu'il lui envoie des mandats. Et en fait, elle poursuit sa vie, elle poursuit ses projets en fonction d'elle-même, et exclusivement d'elle-même. Et le but qui est visé par le bouddhisme dont elle parle est un but qui est résolument au-delà de cet ego. Donc là, il y a un paradoxe quand même terrible. Moi, je serais quand même tenté, tout en respectant énormément le personnage qui est fabuleux, et puis ce qu'elle a écrit, je serais pas tenté de la classer dans les maîtres spirituels, voyez, Alexandra David-Nel. En revanche, elle a permis à un nombre de gens très importants, et aujourd'hui encore, d'accéder à une culture qui est quand même très très différente de la nôtre.
Quel a été le retentissement du récit de son voyage au Tibet à Lhasa?
Énorme. C'est un succès international, je veux dire. Elle est devenue, quand elle est revenue de Lhasa, elle est devenue une vedette internationale. C'est extraordinaire, je veux dire, ça a eu un retentissement. Le Times, tout le monde a rendu compte de cet exploit, car c'est véritablement
exploit. Elle a fait énormément de conférences en Europe, à travers le monde, et puis surtout, on la lit encore aujourd'hui, ce qui est la preuve que, bon, elle a laissé une trace quand même très importante.
Alors cette trace, on peut la retrouver à la télévision demain soir. Nous avons en ligne le réalisateur de cette fiction, Alexandra David-Nel, J'irai au pays des neiges. C'est Joël Farge, nous le retrouvons dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Je rappelle que nous évoquons cet après-midi sur Europe 1 la figure Franck d'Alexandra David Nel.
Que pensent vos invités des expériences paranormales d'Alexandra et du phénomène des tulpas, me demande Mathieu par Internet. Nous allons répondre à cette question, mais juste avant, j'aimerais que nous prenions au téléphone le réalisateur de la fiction Alexandra David Nel, J'irai au pays des neiges, qui est diffusée donc demain soir, vendredi, à 20h40 sur Arte. Bonjour Joël Farge.
Oui, bonjour.
Vous avez été vous-même sur place, bien entendu. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'une partie de ce que vous avez tourné est tournée dans les véritables paysages qu'a connu Alexandra David Nel.
Oui, absolument. C'était la condition indispensable pour essayer d'atteindre la vérité d'Alexandra David Nel, même si c'est pas très facile, comme parce qu'elle a tellement de facettes qu'il fallait essayer de tout faire. Et donc, on a été effectivement sur place. On était souvent même dans les lieux mêmes où elle a vécu, y compris dans la grotte où elle s'est enfermée pour méditer pendant plusieurs mois à la chaîne à 4500 mètres d'altitude.
J'ai été assez impressionné pour ce qui me concerne, j'ai eu la chance de voir le film avant, par la prestation de Dominique Blanc qui vraiment habite le personnage. Elle est tout à fait admirable.
Écoutez, c'était un projet qui est très ancien et quand Arte m'a sollicité pour me dire « Que voulez-vous faire avec nous maintenant ?», j'ai répondu « Alexandra David Nel, j'aimerais reprendre ce projet que je berçais avec moi depuis des années, mais à condition que Dominique Blanc l'accepte. » Et donc je l'ai appelé immédiatement en lui demandant « Est-ce que vous accepteriez d'interpréter Alexandra David Nel ?» Et comme elle la connaissait, elle m'a dit « Eh bien écoutez, je suis extrêmement enthousiaste, mais je n'ai jamais voyagé, et donc ou voyagé très peu. Donc je lui ai dit, ben, venez, vous apprendrez à la fois ce que sont les voyages et ce que c'est que le lointain, ce qui était pour Alexandra David Nel, évidemment un appel auquel elle ne pouvait pas résister, et Dominique en a fait de même.
Alors il y a une chose que l'on comprend bien entendu dans la fiction, mais sur laquelle vous êtes passé peut-être un peu vite parce que vous ne pouviez pas tout traiter, ce sont les rapports difficiles qu'elle entretenait avec les autorités britanniques d'abord, avec les missionnaires chinois, etc. Caractère très dur hein, cette femme.
Effectivement, elle avait un caractère bien trempé, un caractère extrêmement décidé et une détermination incroyable. Alors, je n'ai pas traité ces relations difficiles avec les missionnaires, y compris les missionnaires européens, et encore moins avec les autorités anglaises. Je l'avais fait, mais en réalité, je l'ai enlevé parce que ça donnait à Alexandra David Nel, comme quelqu'un qui se battrait avec des autorités qui sont pour nous connues. Je trouvais qu'elle avait assez d'épreuves à surmonter, et donc j'ai préféré prendre les épreuves de son voyage, les épreuves de sa recherche spirituelle pour sujet principal du film, ça m'a semblé suffisant.
Oui, bien sûr, oui. Et d'ailleurs c'est une quête tellement longue qu'on ne peut qu'en effleurer la matière, naturellement. Vous me disiez à l'instant que c'était un vieux projet pour vous, vous faites partie des gens qui ont été bercés par les récits d'Alexandra David Nel, depuis quand est-ce que ça vous tient ?
Oh, depuis presque 30 ans maintenant, donc c'est vraiment un projet très ancien. C'est à la lecture de la biographie de Jean Chalon que j'avais découvert le personnage.
Qui est avec nous là aujourd'hui.
Eh bien, vous le saluerez de ma part, mais effectivement, c'est lui qui m'a fait découvrir son livre, qui m'a fait découvrir Alexandra David Nel. Et après, évidemment, je me suis tourné vers sa correspondance et j'ai effectivement connu de mieux en mieux le personnage. Donc, je l'ai fréquenté pendant toutes ces années en allant régulièrement en Inde et en particulier dans le nord de l'Inde, c'est-à-dire essentiellement au Sikkim et au Tibet. J'étais au Tibet en 82, mais je n'ai pas pu tourner, bien entendu, au Tibet.
Et pour cause, oui, bien sûr.
Et pour cause, et à cause du conflit. Et aussi parce que quand je m'y suis trouvé pour essayer de voir quels sont les paysages que je pourrais prendre quand même pour essayer de les insérer dans le film, au même moment, des nonnes qui immolaient par le feu, et donc je ne trouvais pas très intéressant pour moi de rester sur place. Donc
évidemment.
Voilà, c'était tellement conflictant, tellement difficile, une situation tellement terrible que ce n'était pas le lieu d'y faire un film.
Merci beaucoup Joël Farge, je ne doute pas que nos auditeurs seront nombreux demain soir devant Arte pour suivre votre Alexandra David Nel, si bien incarnée par Dominique Blanc. Est-ce qu'on a juste le temps de répondre à notre auditeur Mathieu sur les expériences paranormales d'Alexandra David Nel ? Est-ce qu'elle était chamane ? Est-ce qu'elle était douée de pouvoirs extrasensoriels, Jean Chalon ?
Mais elle disait qu'elle, que ce n'était pas de la magie, c'était uniquement de la concentration. Et c'était, par exemple, pour le Toumo, c'était des exercices physiques qu'elle faisait. Évidemment, elle rapporte ce qu'elle a vu, les objets volants, enfin tout ça. Mais là, nous n'avons pas tenu la chandelle, nous n'étions pas témoins.
Ce qui est difficile, évidemment, c'est d'aborder, enfin, c'est de comprendre la dimension spirituelle d'un être comme celui-là, et on peut difficilement l'aborder en 40 minutes à la radio, et pas davantage entre nous en 2 heures à la télévision. C'est là qu'il faut entrer dans les textes. Est-ce que Alexandra David-Nel a été pionnière dans ce domaine? Est-ce qu'elle a été une des premières à s'intéresser au bouddhisme?
Oui, là on peut dire que vraiment elle a été pionnière dans le domaine par rapport à beaucoup d'autres, et surtout, je dirais, dans la clarification aussi de certaines choses. Dans la question qui était posée là tout à l'heure, elle a notamment insisté sur une confusion qui est classique encore aujourd'hui d'ailleurs en Occident, entre l'occultisme, justement tout ce qui touche à ces phénomènes, et l'enseignement secret qui elle l'intéressait, c'est-à-dire l'ésotérisme, la tradition cachée, ce qui sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Donc ça, elle le dit très bien dans ses livres, et ne serait-ce, c'est un point sur lequel elle a clarifié les choses, mais il y a beaucoup de points sur lesquels elle a effectivement donné un autre visage du bouddhisme, sur lequel on entretenait pas mal de confusion à ce moment-là en Occident.
Catherine me demande des conseils de lecture sur Alexandra David-Nel. Mais écoutez, c'est évident, il faut que vous vous plongiez dans la biographie de Jean Chalon qui est rééditée ces temps-ci en pocket, donc Le lumineux destin d'Alexandra David-Nel. Je crois que votre livre, Éric Le Nabour, n'est pas disponible en ce moment. Il faudrait que la thèse se décide à rééditer votre Alexandra. Et puis de Gilles Van Grasdorf, donc chez Pygmalion, l'Alexandra David-Nel, un peu dissonante si je puis dire, et très intéressante également, dont nous parlions tout à l'heure. Voilà, Catherine, les conseils que nous pouvions évidemment vous donner.